Avez-vous peur de parler en public? Selon les statistiques, 75% des gens ont peur de parler en public. Pourtant, comme entrepreneur, c'est essentiel. Si vous voulez convaincre, influencer les gens à acheter vos produits et services, vous devez parler en public, que ce soit devant un groupe ou de façon virtuelle. Aujourd'hui, on parle du courage de parler en public. Entrepreneur en ligne est pour vous, l'entrepreneur qui désire obtenir plus de trafic, plus de prospects et plus de clients. Bonjour, mon nom est Patrick Leroux, entrepreneur et coach d'affaires, et chaque semaine, je vous partagerai des idées, des conseils, des stratégies pour vous aider à vendre davantage en ligne. Merci de passer du temps avec moi aujourd'hui et débutons immédiatement. Bonjour tout le monde, ici Patrick Leroux, entrepreneur, conférencier professionnel et coach d'affaires. Je suis avec Stéphane Simard. Comment ça va, Stéphane?
Ça va bien, Patrick, toi?
Ça va bien. Alors, Stéphane, il est l'instigateur d'un projet fantastique, c'est-à-dire qu'il a décidé d'écrire un livre avec, on est 20 co-auteurs, 20 conférenciers professionnels qui roulent leur boss depuis un bout de temps, et ça s'appelle « Le courage de parler en public ». Et on a tous et chacun écrit une histoire pour donner du courage aux gens, puis dans mon cas, en tout cas, le faire réaliser que même si des fois tu veux mourir, tu peux t'en sortir. Et d'ailleurs, Stéphane me suggérait gentiment, il dit hey, « Écoutez, tous les co-auteurs, et si vous voulez que je vous fasse une mini-entrevue où je pose des questions par rapport à ça, ça va me faire plaisir. » Donc, merci beaucoup d'être là, Stéphane. Alors, peut-être juste en partant, pour les gens qui ne te connaîtraient pas, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Stéphane, rapidement?
Bien, je suis conférencier. Oui. ça fait une quinzaine d'années maintenant que je donne des conférences, principalement auprès des gestionnaires qui veulent attirer, mobiliser, fidéliser plus d'employés.
Excellent. Et qu'est-ce qui t'a donné l'idée, le goût, le flash de dire, écoute, ça prend un livre sur ce sujet-là?
Ben écoute, tu le sais, hein, il y a plein de monde qui viennent nous voir, qui nous parle parce qu'on est conférencier. Ils disent, hey, j'aimerais donc ça être capable de faire comme vous autres. Ça a l'air facile, vous êtes bon. Puis moi, j'ai tellement peur. Puis écoute, en faisant des recherches, j'ai réalisé que vraiment, là, il y a plein de monde qui souffre de glossophobie. Puis c'est un mot que je ne connaissais pas, que j'ai découvert, qui est vraiment la peur de parler en public. Fait que tu imagines, il y a même un nom pour mettre un mot pour mettre sur cette maladie-là. Il y a 75% des gens qui ont peur. Puis nous autres aussi, on a peur. Fait que je trouvais ça le fun, justement, de partager cette espèce de côté-là de vulnérabilité et d'authenticité, de dire, regarde, nous autres aussi, ça nous stresse. Des fois, ça ne marche pas comme on voudrait. Puis l'idée, c'est d'apprendre de tout ça, de tirer des leçons. Puis
c'est l'angle continuer. Un peu, hein, quand que tu nous as contactés. Tu as dit, racontez-nous une des fois où ça a été le pire dans votre carrière de conférencier. Je pense que c'est un peu ça, l'angle. Ce qui rend le livre intéressant aussi, parce que, écoute, c'est là qu'on s'aperçoit que, regarde, même si tu es conférencier professionnel, même si ça fait 2000 conférences que tu as faites, ça a de l'air facile pour toi, bien, on a bûché et on a bavé. Et c'est ce qui fait en sorte qu'à un moment donné, ça a de l'air facile, mais ça ne veut pas dire que ça l'est nécessairement. Et il y a beaucoup d'heures, beaucoup de travail. Les gens ne voient pas ça. Tu sais, moi, personnellement, j'ai fait 2000 conférences professionnellement. J'en ai fait des centaines avant de me faire payer pour la première fois. Et ça n'a pas été extraordinaire, ça n'a pas été magique, dont cette fois-là, qui était probablement une de mes pires, là. Mais je pense que c'est l'angle que tu as voulu aborder le livre.
Ouais, c'est ça. Puis chacun des 20, en fait, présente une histoire qui est une situation qui était peut-être un peu difficile parce que finalement, l'idée, c'était vraiment de que les gens, ça les encourage à parler en public. Puis tantôt, justement, je t'ai demandé de nous raconter ton histoire à toi. Mais tu sais, dans le livre, là, c'est ça, hein, c'est des histoires drôles, c'est des histoires où tu te dis « Oh my God, hey, je suis content que ça ne me soit pas arrivé à moi. » Puis d'autres belles leçons, c'est ça qui est vraiment le fun. Puis tu sais, chacun a tous nos bagages, chacun a tous nos expériences, mais le fil conducteur, tu l'as dit, c'est vraiment ça, c'est comment on a fait face seulement à l'adversité, mais en demeurant le plus possible authentique, puis en survivant finalement.
Ouais. Les gens qui nous écoutent, parler en public, c'est pas juste parler devant un groupe, c'est de parler devant la caméra, surtout en temps de pandémie, on va se le dire. Les réunions, toi puis moi, on n'a pas fait de conférence depuis un an, pas parce qu'on veut pas en faire, c'est parce que c'est la loi. Présentement, on peut pas se réunir. Bon, ce n'est que passager, ça va revenir. Mais parler en public, c'est aussi faire des Zooms, faire des lives. Ça, c'est vraiment hyper populaire. Là, quand vous faites des Facebook Live, des Instagram Live, vous allez sur YouTube Live également, ben vous parlez en public, il y a des gens qui sont là, qui chattent, qui vous répondent. Fait qu'il y a des principes qui sont quand même les mêmes. Moi, personnellement, lorsque je parle en public, j'ai toujours un plan. Je sais exactement où je m'en vais. C'est jamais très élaboré. C'est surtout des bullet points. Je sais pas si tu utilises la même stratégie. Là, j'ai comme, mettons, j'ai 3 idées ou 5 idées que je vais vous partager. J'écris les idées. J'écris mon accroche en haut puis mon call to action à la fin. Est-ce que tu utilises un peu le même principe?
Ben regarde, juste pour qu'on se parle là, je me souhaite une petite feuille. Voilà. Juste en avant là, puis tu sais, je sais de quoi qu'on va parler, on s'en est parlé, mais j'ai ça pas loin. Puis comme tu dis, c'est beaucoup de la préparation. Tu sais, ouais. C'est les gens qui me disent comment je fais pour éliminer le stress. Ben, plus que tu es préparé, mieux c'est. Mm-hmm. Puis c'est pas de t'en mettre trop sur les épaules non plus. C'est de dire, regarde, on va faire avec la situation. J'ai confiance en mon contenu. Je suis prêt. J'ai mon petit plan de match. Ouais. Il va probablement arriver des imprévus. Mm-hmm. Peut-être quelqu'un va poser une question qui marchait pas. Le chien va se mettre à japper. Quelqu'un va sonner à la porte.
C'est sûr.
Mais c'est de dire que ça va arriver. Donc, on s'en met pas trop ses épaules, puis on deal avec ça, puis c'est ça qui fait que on est accessible, puis on connecte avec les gens aussi.
Je pense qu'une des clés du succès, comme tu l'as mentionné, c'est la préparation. On dit souvent que ça prend 7 heures de préparation pour 1 heure de présentation, et ça, c'est un minimum. Puis si on connaît notre sujet, j'ai moi-même écrit un livre qui s'appelle « Communiquer en public, un défi passionnant » en 2001, ça fait déjà longtemps, et j'en parle abondamment là-dessus. Alors que si t'es bien préparé, tu connais, tu maîtrises ton sujet, tu sais de quoi tu vas parler, même si t'as un blanc de mémoire, ben tu regardes ton plan, ah oui, c'est vrai, je suis rendu là, puis parce que tu maîtrises ton sujet, ben tu vas en parler, et puis tu parles comme si tu parlais à ton ami dans ton salon, pas besoin de parler de façon scriptée, puis oui, il va arriver des trucs en cours de route, mais si tu es moins focusé sur toi, puis tu es plus focusé sur ce que tu veux apporter comme message, puis ton auditoire, puis leur bien-être, puis les faire avancer. Aujourd'hui, ce qui fonctionne, je pense, Stéphane, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, mais c'est l'authenticité. Au-delà d'être parfait, puis d'être bien synchronisé, puis dire le bon mot, puis faire une pause au bon moment, c'est quand tu es intense, puis tu es vrai, t'es toi-même, je pense que c'est là que les gens connectent avec toi.
Absolument. Puis comme tu l'as dit, c'est une conversation. T'sais. C'est sûr que c'est pas naturel. On est devant un écran ou on est dans une salle avec plein de monde qu'on connaît peut-être pas. Mais ça reste que c'est une conversation. On est en train de jaser, sauf que c'est de un à plusieurs personnes, mais c'est pas de un à plusieurs, c'est de un à un, mais avec plein de gens différents. Puis d'accepter justement que ça sera pas parfait, puis qu'il va arriver des petites affaires.
Il va faire des erreurs.
C'est ça qui fait que c'est naturel.
J'ai ma fille qui a fait une présentation à son école avant-hier, puis elle me dit quelque chose que beaucoup de personnes vivent. Moi, je l'ai vécu tellement. Elle dit, j'ai oublié de dire ça. Non, puis elle s'en voulait, puis elle se tapait. Je veux dire, les gens ne savent pas ce que tu as oublié de dire. Il y a juste toi qui le sais. Et c'est certain, quand tu te prépares avec la nervosité, le monde, tu avais prévu de dire des choses. Tu les avais même écrit, mais c'est comme c'est tout embrouillé là, parce que tu es nerveux, puis il y a du monde, puis tu as oublié de les dire. Faites-vous pas malheur, là, tapez-vous pas dessus, là, c'est pas grave, il y a juste vous qui ne sait pas que vous ne l'avez pas dit. Fait qu'effectivement, il n'y a aucune présentation qui se passe 100% comme vous voulez, mais avec l'expérience, tu apprends à, tu sais, juste au niveau technologique, combien de fois des présentations, ça se déroule pas, la lumière, elle tombe, le générateur, il embarque pas, le PowerPoint fonctionne pas, la télévision que tu écoutais la vidéo, il arrête dans le milieu, ton micro, il cesse de marcher, vous savez, c'est sûr qu'il va arriver un paquet de trucs comme ça, mais tu deals avec, puis tu n'oublies pas ta mission, tu as un message à véhiculer. Les gens, ils veulent que tu réussisses. Hein? Je ne sais pas si tu es d'accord. Là, quand tu fais une présentation, là, ils se sont déplacés, ils ont investi leur temps, ils sont là devant toi. Ils veulent que tu réussisses. Ils ne veulent pas que tu te plantes, là. Ils ne veulent pas perdre leur temps. Fait que ayez confiance en vous, ayez confiance aux gens devant vous. Et si vous êtes bien préparé, ça va bien aller. Le plus gros problème des gens qui ne réussissent pas à parler en public, c'est le manque de préparation. Oui, il y a de la pratique, mais le manque de préparation, je pense que c'est le problème numéro un.
Absolument. Puis tu sais, ce livre-là, tu l'as dit tantôt, tu sais, ça ne s'adresse pas juste à des conférenciers parce que tout le monde dans notre vie, comme tu dis, avec Zoom ou avec d'autres circonstances, on a à présenter devant des collègues un projet, on est dans une assemblée à l'école pour lever la main, pour poser une question. Tu sais, fait qu'il y a plein de situations de même qu'il faut apprivoiser justement, puis tu sais, c'est ça, j'ai réuni des conférenciers parce que nous autres, on gagne notre vie à faire ça, puis on voulait inspirer les gens en montrant notre côté fragile en même temps. Puis j'aimerais ça, Patrick, que tu nous... c'est sûr qu'il y a plein de monde là, qui nous écoute, qui connaissent déjà ton parcours, mais peut-être pour ceux qui ne te suivent pas depuis le début, là, quand est-ce que ça a commencé toute cette histoire-là de vouloir parler en public? Puis c'est quoi le cheminement que tu as fait depuis tout ce temps-là?
Ça va faire plaisir de t'en jaser. En fait, moi, j'avais une peur bleue de parler en public. Ça s'est déclenché. Je travaillais chez Coca-Cola à l'époque. Je venais de sortir de l'université. Et parce que j'avais quand même beaucoup de succès dans les ventes, j'étais le meilleur vendeur des 54 vendeurs parce que j'étais jeune, j'étais ambitieux, puis je plaçais des machines, puis tout ça. Fait que là, le directeur des ventes, il me dit, Patrick, prochain meeting, c'est toi qui pars en avant. Faut que tu lui dises ce que tu fais. Ça n'a pas de bon sens. Tu vends 4 fois plus que le deuxième vendeur. Puis là, quand il me dit ça, là, écoute, je... capoté, parce qu'autant j'étais à l'aise avec mes clients, puis j'étais dans la vente, puis j'étais jeune, puis j'étais ambitieux, puis je sortais d'université, mais de parler devant un groupe, c'était une de mes pires phobies dans la vie. pas dormir, le stress, tout écrire ce que j'étais pour dire, mot à mot. Puis quand je suis arrivé pour faire la présentation, j'ai eu un blanc, j'ai gelé, je me rappelle pas ce que j'ai dit, j'ai même pas fini de faire ce que j'avais à faire et j'avais honte, mon ami, là, je voulais même pas aller dîner avec mes collègues de travail. Alors, je savais que j'avais un problème. Je savais que j'avais un problème, puis j'avais là quelque part dans un livre que si tu veux avoir de l'avancement dans la vie, puis tu veux avoir des postes de leadership, ben cette habileté-là qu'à communiquer, parler devant un groupe, c'est essentiel. Sinon, tu vas toujours rester dans des postes de subalterne. Alors, je savais que important, je savais que j'avais un problème. Alors, ce que j'ai fait des petites recherches, puis je suis tombé sur les cours Dale Carnegie, qui étaient des cours de parole en public. Alors, je suis allé voir mon patron et j'ai réussi à convaincre mon patron, puis il savait que j'avais de la misère, là. Il savait que j'en arrachais, puis je savais que j'en avais besoin. Alors,
c'est un cours de... il a vu que ça n'a pas passé.
Oui, leadership et parole en public, c'est 12 semaines, puis je pense que ça coûtait 1200$, donc c'était pas donné. Et Coca-Cola, il y avait une politique à cette époque-là, c'est que tu avais le droit de prendre 2000$ de formation par année à l'extérieur, mais il fallait que ça soit approuvé par ton patron, puis il fallait que tu réussisses le cours. Fait que ça l'a passé là-dedans, fait que je suis allé prendre les cours chez Dale Carnegie, puis encore une fois, là, c'était l'enfer. Les premières fois que j'ai parlé, là, je voulais mourir, les trois premières fois, parce qu'il y a 12 cours, et à chaque cours, il fallait que tu fasses une présentation de 2 minutes. Mais les trois premières fois, c'était horrible. Mais j'ai appris, j'ai étudié, je me suis bien préparé, je me suis tellement pratiqué chez nous parce que j'avais tellement peur d'avoir de l'air ridicule qu'après 3-4 fois, ça s'est super bien passé. Même qu'après 12 semaines, les élèves devaient voter pour le toast, le meilleur, je sais pas trop quoi, j'ai reçu un crayon en fait parce qu'il y avait voté. Il y avait eu plus d'impact, j'étais comme aïe aïe. Là, j'ai senti qu'il y avait de quoi. Et ça, c'est comme une drogue, hein, la parole en public. Tu vas pouvoir confirmer ça. C'est que plus que tu en fais, ben plus que tu veux en faire. Parce qu'il y a beaucoup, tu sais, l'estime, la reconnaissance, des gens qui t'applaudissent à la fin. Je veux dire, qui se fait applaudir à la fin de sa journée de travail? Personne. Alors, de se faire applaudir à la fin, c'est très, très valorisant. Fait qu'après, après Dale Carnegie, tu dirais 12 semaines, j'ai fait des recherches, puis je suis allé chez Toastmasters. Alors, Toastmasters, c'est des clubs de parole en public. Et là, chez Toastmasters, tout de suite, je me suis impliqué. Hein, je suis devenu secrétaire, trésorier. Là, je faisais tous les rôles Toastmasters. Je faisais des improvisations. Je suis devenu vice-président. Je suis devenu président d'un club Toastmasters sur la rive sud de Montréal. J'ai été très actif pendant 2 ans et demi chez Toastmasters. Et c'est pour ça que je me suis amélioré. Parce qu'à tous les semaines, je faisais des présentations. Puis je me mettais vraiment au bat. Là. Il y a des gens que ça faisait 1 an et demi, 2 ans qui étaient dans Toastmasters. Ils n'avaient pas fait un discours. Ils faisaient juste assister. Ils faisaient des petites improvisations des fois. Puis moi,
tapais des mains.
Deux semaines, j'étais là, puis OK, je fais un discours, puis c'est juste, tu sais, Toastmasters, c'est 12, 14, 15 personnes, c'est tous des gens, des professionnels, fait que c'est pas risqué. Alors, moi, j'ai été très, très impliqué dans Toastmasters, puis c'est là que, moi, j'ai beaucoup de livres de développement personnel, puis un des personnes qui m'a beaucoup influencé quand j'étais jeune, c'est Tony Robbins. Et Tony Robbins, il avait juste 10 ans de plus, bien, il a encore juste 10 ans de plus que moi, et parce que dans ma tête, pour être un conférencier, il fallait être un vieux, hein, fallait avoir de la sagesse, comme je suis présentement, là, mais quand j'étais jeune, j'ai dit, je peux pas être conférencier, j'aurais pas de crédibilité, mais parce que j'avais Tony Robbins comme modèle, je me suis dit, waouh, lui, il a réussi, pourquoi pas? Parce que j'avais quand même un background d'entrepreneur, là, et là, je me suis mis à rêver au fait que je puisse en faire un métier, parce que la plupart des auteurs que je lisais gagnaient leur vie en étant conférencier. Fait que là, chez Toastmasters, parfait, chez Dale Carnegie Toastmasters, puis après ça, j'ai commencé à faire des formation, des conférences, mais ça a été un gros flop, je vais le dire en affaire. C'est bien beau de vouloir parler en public, mais que de vendre des conférences et des formations, c'est un autre paire de manches. Alors, je me suis associé à Michel Bélanger qui avait écrit le livre « Champion de la vente » à l'époque. C'est un livre que j'avais lu, que j'avais adoré. Fait qu'il me prit un peu sous son aile, puis je faisais des bouts de ses formations qui duraient 2 jours, jusqu'à temps qu'il me dise « OK, t'es rendu meilleur que moi, c'est toi qui es fait au complet à cette heure. » Et on était ensemble pendant 3-4 ans, puis par la suite, ben, j'ai commencé à voler, disons, de mes propres ailes. Puis aujourd'hui, ça va faire, je pense, je commence ma 25e année comme conférencier. J'ai commencé ma première conférence en octobre 1996 et 2000 conférences plus tard, comme toi, CSP, Certified Speaking Professional. Et en 2015, ben là, écoute, ça a été la crème. Là, ils m'ont intronisé au temps de la renommée des conférenciers professionnels du Canada. Tout ça pour vous dire que au début, là, je suis parti de -0. Là. J'avais peur, j'étais terrorifié, mais ça s'apprend et c'est ce que je veux dire aux gens qui nous écoutent. Peu importe où vous en êtes par rapport à votre peur de parler en public, bien, vous pouvez réussir à la vaincre, à passer par-dessus. Puis même aujourd'hui, je fais encore des erreurs puis je m'améliore tout le temps. Alors, c'est comme ça que moi, j'ai commencé. Peut-être toi, d'ailleurs, comment tu as commencé? Comment que c'est venu la parole en public pour toi? C'était-tu facile?
Ben, écoute, moi, c'était plus facile que toi. En partant, J'ai jamais ça. Tu sais, moi, mes premières jobs, c'était moniteur d'un terrain de jeu, moniteur de ski. Fait que moi, montrer des affaires à du monde, à des jeunes, c'était ça qui me faisait vibrer. Puis j'ai fait un bac en enseignement. Puis, je me suis retrouvé à enseigner dans les écoles secondaires pendant quelques mois pour réaliser que, au play, j'étais pas vraiment à ma place. Moi, ce que je voulais, c'était faire ce que je fais aujourd'hui, c'était parler devant des gens d'affaires, tout le côté milieu des affaires, business, ça m'a toujours bien fasciné. Fait que je suis retourné à l'école, j'ai fait un autre DAC en gestion des opérations au HSC à Montréal. Puis là, j'ai vraiment trippé. Puis là, je me suis dit, OK. Il y a quelque chose à faire avec mon amour pour les jeunes, mon intérêt pour les jeunes, mon intérêt à communiquer, puis faire ça. Mais tu sais, j'ai été gestionnaire avant ça pendant une dizaine d'années, parce que comme tu disais tantôt, à un moment donné, ça prend un minimum de crédibilité pour te présenter devant du monde, puis avoir la prétention de leur montrer un ou deux trucs pour les aider. Fait que j'ai été gestionnaire une dizaine d'années, mais tout le temps avec cette espèce d'idée-là éventuellement que je serai en affaires, que je ferais des présentations ou que je ferais de l'enseignement. Tu sais, souvent, on se dit, ben, tu sais, moi, je savais pas que ça existait, là, que c'était un métier d'être conférencier. Tu sais, je voyais, bon, je vais être prof éventuellement de quelque chose ou à quelque part, je sais pas comment. Pas au français au secondaire, mais quelque chose qui a rapport avec le monde des affaires. Puis, je suis tombé par hasard sur le site de notre ami Martin Latulippe à l'époque, en 2005. Puis, en bas de son site, il y avait un petit logo de CAPS, le Canadian Association of Professional Speakers. Fait que j'ai fait des petites recherches, puis j'ai réalisé qu'il y avait une association de conférenciers qui se réunissent à chaque année pour écouter d'autres conférenciers faire des conférences, puis partager leurs trucs. Puis là, j'ai dit, ah, il y a vraiment une business, une industrie, il y a moyen finalement de gagner sa vie à faire ça. Puis 15 ans plus tard, ben c'est ce que je fais encore aujourd'hui.
En 2005, tu as tombé sur le CAPS.
Oui, je suis devenu membre en décembre 2005.
Je ne sais pas si tu le savais, les gens qui nous écoutent peut-être. Moi, j'ai mis sur pied l'Association des conférenciers professionnels du Québec en 98. J'étais allé à mon premier congrès de NSC en 1997. C'était à Philadelphie avec Bob Yurichuk, que je salue. Et j'avais pas une scène. On a emprunté sa carte de crédit. On voulait même pas parker notre voiture. On avait pris la voiture à Bob pour y aller parce que ça coûtait 35$ US parker l'auto. US, fait que c'était comme 50 Canadiens. On n'avait pas une scène, on a partagé la chambre, tout ça, mais je suis sorti de là, j'ai dit « Wow! » Tu sais, 2000 conférenciers. Hey, je me suis fait prendre en photo avec Zig Ziglar, avec Les Brown, avec Jack Canfield. Écoute, « Swim with the shark without being alive, Harvey McKay. » Tu sais, je me faisais prendre avec ces gens-là. Je suis sorti de là, je dis « Il faut faire quelque chose. » Et là, CAP, ça venait de commencer au Canada. Fait que je vais partir le chapitre de Montréal. Il voulait rien savoir, hein, parce que c'était en français. Puis là, il voulait pas tout traduire. Puis là, je dis, écoutez, je vous promets que vous avez rien à traduire. Je vais partir ça. Puis mon premier conférencier que j'ai invité, ou le deuxième, je pense que le premier, c'était Warren Evans. Le deuxième, c'était Jean-Marc Chaput qui est venu. Et on a commencé en 98 à faire des meetings comme ça à tous les mois. Puis ça existe encore, hein, ceux qui nous écoutent, qui pourraient avoir de l'intérêt. Bien, le chapitre de Montréal qui s'appelle CAPS Montréal, mais qui va changer pour CAPS ou c'est sur le point de CAPS Québec présentement. Donc, c'est les conférenciers qui veulent apprendre comment vivre de ce beau métier-là. Fait que je vous invite, Stéphane, toi, ça a fait une différence. Moi, ça a fait une différence énorme parce qu'à côtoyer tous ces gens-là à tous les mois, puis d'apprendre, puis d'observer, ben tu viens que tu t'émules un peu ce qu'ils font et tu accélères ta croissance de beaucoup. Hein.
Absolument. Écoute, ça fait toute la différence, là. Puis c'est une communauté qui est tellement généreuse, fait que tu fais bien de le dire. Canadianspeakers.org, si les gens veulent aller plus loin, c'est la place, vraiment la place.
Tout à fait.
Là, Patrick, j'aimerais ça que tu nous racontes ta fameuse histoire, parce que comme on disait tantôt dans le livre, là, on est 20 à partager nos histoires.
Tu racontes la tienne par la suite. Alors, moi, je suis arrivé en octobre 2012, c'est au Château Montebello, qui est une place assez luxueuse. C'est un vieux château, pour ceux qui ne sont jamais allés, là, puis un gros foyer central, des poutres en bois, ça date de 1900 à peu près, là. C'est magnifique. Il y a eu même une conférence du G7, juste pour vous dire, là, ouais. C'est très, très magnifique. Et là, je suis embauché pour faire une conférence par un speaker's bureau, donc c'est un bureau de conférenciers. Généralement, eux, ils vont prendre comme 30% de commission sur tes honoraires. Et je me rappelle, j'avais quand même une bonne paye, là. C'était, je pense, 4 000 $ pour faire ma conférence. Et c'est pour les services secrets canadiens. Donc, déjà là, je me dis, attends un petit peu, c'est pas mon target market. Moi, absolument, c'est des gens dans la vente, des gens en business. Mais là, c'est les services secrets canadiens, là. Là, je me dis, écoute, bah, la paye est bonne, tout ça, puis ils m'ont booké, parfait. Fait que là, j'apprends que la conférence est en soirée. pense que c'est un vendredi soir, je suis pas certain, mais c'est en soirée. Et là, je dis, oups, attends un petit peu, en soirée, c'est vraiment pas le bon timing pour faire une conférence, mais j'accepte, la paye est bonne, j'arrive au Château Montebello vers 5h, et là, je m'en vais toujours comme je fais d'habitude, je m'en vais à la salle pour faire mes tests, pour vérifier si tout fonctionne bien, l'éclairage, positionner les chaises. Bon, ça prend à peu près 20 minutes, tout ça, et là, je m'en vais au cocktail, parce que tout le monde est arrivé au cocktail, et là, c'est le party. Vraiment, le gros party au cocktail. Je vais voir ma cliente, et puis là, j'ai dit, ah, c'est des gens de bonne humeur. Elle dit, oui, oui, on fait un meeting aux 2 ans, et ça fait 2 ans que la plupart de ces gens-là sont pas vus. Ils viennent de partout au Canada. On couche à l'hôtel pendant 3 jours. Fait que oui, ils sont contents de se voir. C'est des policiers, on s'entend. Et là, ça boit, mais sur un méchant temps. C'est bar ouvert. Généralement, quand il y a des événements comme ça, les organisateurs vont donner 2 billets, 2 consommations aux gens parce qu'ils veulent que ça. Bon, ben, ça, c'est en 2012. Fait que dans ce temps-là, là. Puis les gens couchaient là, fait que personne prenait leur voiture, fait que avoir bar ouvert, Service Canada. Et là, il est 6h, puis là, je m'en vais à la salle à manger comme prévu, tu sais, c'était marqué dans l'horaire, à 6h, c'est la salle à manger. Je suis tout seul, il n'y a pas un chat. Je retourne au cocktail, là, je vois ma cliente. Elle a dit, oh ouais, ça fait longtemps qu'ils sont pas vus, relax, on va aller manger bientôt. Fait que les gens ont commencé à manger à 6h30 au lieu de manger à 6h. Fait que déjà, là, ça décalait, là, ma conférence, ça se posait à 7h30 dans mon cas. Et là, je m'assois. Il y a un gars de 55 ans à côté de moi, assez grand, pas de cheveux, des grosses lunettes comme ça. Puis, il va me présenter. Il dit, bonjour, moi, c'est Patrick, je vais être conférencier ce soir. J'ai dit, c'est quoi vous faites? C'est quoi votre nom? Il dit, c'est Claude. J'ai dit, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Il dit, je peux pas te le dire. Là, j'ai dit, OK, c'est Canadien. J'ai dit, OK, c'est correct, je comprends votre travail, vous pouvez pas me dire ce que vous faites. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie, dans vos loisirs, quand vous travaillez pas? Et là, il dit, désolé, il faut que je me lève, il faut que j'aille à la toilette, j'ai un appel à faire. Je dis, aïe, qu'est-ce que c'est? Quelle gang de weirdo que je viens de rencontrer là? Tu sais, c'est des services secrets, autres, là, comme, ils disent pas un mot, tu sais, comme. Fait que là, je dis, OK, parfait. Fait que là, mais là je m'aperçois le vin aussi, là. Tu sais, c'est vin à volonté. C'est pas des fois, ils mettent une bouteille par table. Là, c'est à volonté, là. Ah ouais, le bar open pour le vin. Et là, ça boit. Et là, je regarde, là, je vais voir l'harmonisatrice parce que je dois faire une conférence à 7h30. Puis là, il est 7h15. Je dis, ah, ça va probablement commencer. Le cocktail était plus loin. Ils ont eu de la misère dans la cuisine. On va réattendre ça un peu. Mais pas grave, Patrick, il n'y a rien après toi. Fait que même si tu commences plus tard, ça va bien aller, mais là, moi, je sentais là, que ça sentait pas bon. Ça sentait pas bon.
On s'enligne, c'est quelque chose.
Non. Fait que là, au lieu de commencer à 7h30, à 8h, il dit OK, à 8h, ils ont on va inviter tout le monde dans la salle pour aller prendre le dessert. Fait que là, à 8h, le monde se lève, s'en va dans la salle. Moi, je devais commencer à 7h30. Là. Il est 8h, il arrive. Écoute, une salle de 300 personnes. Déjà, c'est un peu plus gros. Moi, ma moyenne, c'est 150 personnes habituellement. 300 personnes, c'était quand même un assez gros groupe. J'arrive dans la salle, il y a 3 grosses fontaines en chocolat. Tu sais, tu mets tes affaires, là, le chocolat coule. J'ai jamais vu autant de desserts de ma vie. Je capote. Fait que là, ils sont intoxiqués à l'alcool, puis ils vont s'intoxiquer au sucre. Imagine-toi le mélange, là. Fait que là, à 20h15, 3 quarts d'heure plus tard que je devais commencer, il dit finalement, il m'annonce, il me fait une présentation dans une conférence qui s'intitule « Le feu sacré du succès ». S'il vous plaît, accueillez Patrick Leroux. Puis habituellement, moi, quand j'arrive sur scène, là, ben, tu sais, je mets de la musique, je fais taper les mains pendant 15 secondes pour mettre de l'énergie, tout ça, mais là, fuck all. Personne claque des mains, pas d'énergie. Là, je dis, my gosh, qu'est-ce que je viens faire ici? Et là, je commence ma conférence. Écoute, la moitié de la salle m'écoute pas. Ils parlent entre eux autres parce qu'ils sont tous intoxiqués, tout ça, puis sont sur un high de sugar. Là, puis là, l'organisatrice se sent tellement mal. Je pense que 3-4 fois, elle a fait chut, chut. J'arrête de parler en arrière. Je pense que les seules personnes qui m'écoutaient, c'était les 2-3 tables en avant, dont le comité organisateur qui m'avait embauché. Et là, j'ai dit, je voulais rentrer dans le plancher, Stéphane. Ça marchait pas. Puis moi, j'ai beaucoup d'interactions à mes conférences. Je fais lever la main. Là, je faisais lever la main. Personne levait la main. Là, je comptais des jokes que j'ai fait des douzaines, des centaines de fois. Que, tu le sais, là, ça marche, puis tout ça. Là, je comptais ma joke, pas de rire. Tu sais, quand tu dis, je veux mourir, s'il y avait une traîne dans le plancher, là, je passais à travers. Et là, j'ai dit, ma carrière est finie. C'est fini. Le gouvernement, je ne travaille plus jamais de ma vie au gouvernement. Ils vont parler à toutes leurs relations dans le monde des affaires. C'est la dernière conférence. Ta carrière, écoute, je présume qu'il y a une date de péremption, là. Ma carrière, là, pouf, ça se finit là. En 2012, ça fait depuis 96, ça fait 15 ans que j'en fais. Je pense que je dois faire le tour, là. Je suis passé date. Et j'ai voulu, je suis vraiment là. Et finalement, j'ai fait ma conférence, mais au lieu de faire, j'avais une heure et demie, je pense, à faire. Mais après une demi-heure, 40 minutes, je me rappelle pas exactement, là, ben, j'ai vu que ça avait absolu, ça valait pas de bon sens. Alors, je suis allé voir ma cliente, tu correct si on termine ça? Elle dit, oui, s'il vous plaît. Là, j'ai mis à la conférence. Et tu sais, nous autres, on a toujours une table de livres, les conférenciers, parce que les gens viennent nous voir, ils nous serrent la main. Hey, Jamie, t'as conté ton histoire. Puis on dédicace des livres. Pas un chat est venu me voir après la conférence. Pas personne. Et là, il y a juste une personne qui est venue me voir, c'est l'organisatrice qui se sentait super mal pour moi. Puis elle dit, écoute, je suis désolé, Patrick, là, personne n'écoutait. Les gens, il y avait juste le goût de faire le party. Elle dit, peut-être que c'était pas le bon moment pour inviter un conférencier. J'ai dit, je vous confirme, madame. Je dis, la prochaine fois, faites-le venir le samedi matin à 11h, une fois qu'ils auront dégrisé un peu, parce que c'était pas vraiment. Alors, tout ça pour vous dire que, écoute, si vous avez à faire des conférences et qu'on vous demande de faire une conférence le soir, faites votre possible pour ne déplacer, hein, parce que c'est le pire créneau. Le pire moment, le meilleur moment, selon moi, c'est en avant-midi. Les gens sont réveillés, ont pris leur café. Mais en après-midi, c'est assez difficile. Après le dîner, c'est très difficile parce qu'il y a un coup de barre. Mais après un souper arrosé à l'alcool puis avec plein de chocolat, oubliez ça, c'est votre kiss of death. C'est certain que ça ne fonctionnera pas. Et c'est ce que je veux vous dire. Donc, c'est pas parce que c'est arrivé que je n'ai pas continué à en faire par la suite. Ça a été très dur sur l'orgueil, mais c'est de l'expérience, disons, que j'ai pris. Puis par la suite, est-ce que j'ai fait d'autres conférences le soir? Oui, j'en ai fait, parce que quand il faut dire, la paye est bonne, mais je mettais toujours l'organisateur en précaution, en alerte, puis je leur disais une ou deux consommations maximum. Je leur dis souvent, quand les gens commencent à manger, aussitôt qu'ils ont servi le repas, vous dites aux gens, les serveurs qui laissent des assiettes, là, je commence à parler, parce que tu veux commencer le plus tôt possible. Tu veux pas que ça s'étire, là, à 8h30, 9h, oublie ça, les gens sont plus là. Fait que c'est mon histoire qui m'est arrivée après 15 ans d'expérience. Alors, je suis curieux d'entendre, toi, ton histoire, qu'est-ce qui est arrivé, puis la leçon que tu en retires.
Incroyable. Ben moi, écoute, ça remonte à une douzaine d'années. Ça faisait, j'étais dans mes débuts, là, 2-3 années, quand je commençais à faire des présentations, des conférences. Puis, je me suis inscrit à un programme aux États-Unis qui n'était pas Dale Carnegie, qui était un autre programme, mais un peu le même concept. L'idée, c'était de développer mes compétences pour être un meilleur conférencier. Ça se passe sur 4 jours, puis c'est intense. C'est style bootcamp, là. On commence le matin de bonne heure, puis on finit aux petites heures du matin. On dort 4-5 heures par soir, puis le lendemain, ça repart. Puis durant cet événement-là, on a 4 présentations à faire. C'est comme 4 salles différentes. T'as la salle de l'intimité, la salle de la puissance, la salle de l'humour, puis la salle de l'authenticité. Puis là, la première présentation que je fais, ça va moyen, mettons, mais celle-là, je l'avais préparée. C'était la seule qu'on avait le droit de préparer. Mais il fallait parler de soi. Puis moi, j'ai parlé pas vraiment de moi, mais de quelqu'un qui m'a influencé, tu sais. C'était personnel, mais c'était pas moi. Puis j'étais à peu près le seul qui n'a pas vraiment parlé de lui-même, tu sais, parce que j'avais l'ego fragile, je voulais me pader un peu. Puis là, ben l'animateur, il m'écœure un peu avec ça. Il dit, ouais, t'as pas parlé de toi, tu sais, mais ça reste de même. Écoute, le lendemain, là, c'est l'histoire d'horreur. C'est la salle de la puissance. Je passe à peu près d'un dernier. On est rendu, je pense, il est minuit, 1 heure du matin. Puis je voulais pas passer d'un premier parce que j'avais peur. Puis là, écoute, il m'interrompt après 30 secondes. Là, il dit, je t'entends pas, plus fort, plus d'énergie. Là, il me demande de crier, de sacrer. Là, à un moment donné, je dis, ben là, écoute, là, peut-être parce que t'es en anglais, tu sais, je suis pas confortable, c'est ma langue seconde. Il dit, continue en français, les mots, c'est pas important, je devrais sentir ton énergie. Hey, là, j'ai chaud, je suis découragé. Finalement, il m'arrête, ça finit là. Hey, le lendemain, là, j'abattrai à terre, je dis, non, je deviendrai jamais conférencier. J'ai dépensé de l'argent là-dedans, puis ça marchera jamais. Puis là, le midi, ben je faisais tout le temps une petite sieste parce qu'écoute, on était brûlés morts, là, on dormait pas, puis c'était fou. Puis je sais pas ce qui s'est passé, c'était un midi-là, mais à un moment donné, là, c'est comme s'il y avait un mur qui protégeait ma petite estime de soi bien fragile. C'est comme si ça a tombé. Puis je me suis senti tellement bien. Puis je sais pas, tu sais, j'imagine que ça faisait partie de l'expérience, ces bootcamps, puis de pousse à tes limites, puis ça a marché. Le soir, j'ai fait une présentation. Je me suis dit, je vais passer le premier. Mm-hmm. Puis je suis passé le premier, là, il essayait de me déconcentrer, il m'a demandé de changer mon habillement pour que j'aie l'air fou, puis monte tes pantalons, change ta chemise, en tout cas, puis ça a super bien été. Puis la dernière journée, c'était la salle de l'humour. Puis, écoute, j'ai fait rire de moi pendant 10 minutes, j'ai présenté, durant la journée, il y avait une activité, puis j'avais mal compris les consignes à cause de la langue. J'avais fait quelque chose qui avait vraiment pas rapport, puis je le savais pas, puis je m'en suis rendu compte après, puis j'ai fait rire de moi pendant 10 minutes, puis j'ai été comme le hit de la soirée parce que j'ai fait rire de moi devant tout le monde. Fait que, tu sais, la morale de l'histoire, finalement, j'ai retenu de tout ça, c'est l'importance d'être authentique, d'être vulnérable, puis de pas vouloir se protéger tant que ça, puis d'accepter ce qui va se passer, puis de vivre avec, puis depuis ce temps-là, ben j'ai vraiment beaucoup plus de plaisir, pas mal plus efficace à présenter que le 12 ans.
Les gens connectent avec, bravo, merci pour ton histoire, les gens connectent avec notre vulnérabilité. Moi, j'ai écouté, j'ai partagé la scène il n'y a pas très longtemps avec Nicolas Duvernois de Pure Vodka. Et tu sais, ce gars-là, c'est un homme d'affaires accompli, il a passé au Dragon, c'est incroyable, c'est la meilleure vodka au monde. Puis tu l'écoutes en conférence, là, puis mettons qu'il fait une conférence d'une heure et demie, là, il passe 1h20 à parler de toutes les gaffes qu'il a faites dans sa vie. C'est ça il est vraiment extraordinaire en conférence, je vous suggère d'aller le voir. Là. Mais vous allez beaucoup plus connecter avec votre vulnérabilité que de connecter. Tu ne connaîtrais pas, en fait, si vous parlez de tous vos accomplissements et les choses que vous avez réussies. Puis si les gens, c'est comme ça qu'ils connectent de cœur à cœur, c'est quand vous parlez des fois que vous êtes planté. Fait que oui, c'est correct de mentionner quelques faits d'armes, mais si possible, faites-le mentionner par les gens qui vont vous présenter, hein, qui vont vous introduire, vont mentionner vos faits d'armes, puis vous parlez plus des moments où vous en avez arraché, les gens vont connecter plus émotionnellement. Fait que c'est un peu ça. Super beau livre, super belle initiative. Merci beaucoup, Stéphane, d'avoir parti ce projet-là. Moi, je suis très content, très fier d'y contribuer. Et les gens qui veulent peut-être se procurer un lien, j'ai mis le lien de l'éditeur juste en haut ou en bas ici, là, tout dépendamment sur quelle plateforme vous nous écoutez. Donc, c'est un monde différent qui a publié le livre. Donc, vous pouvez cliquer et l'acheter directement sur le site de Un monde différent. Alors, peut-être un petit mot de la fin, Stéphane?
Bien, de dire aussi que le livre va être en librairie à partir de demain.
OK.
Puis, écoute, grand merci, Patrick, d'avoir voulu prendre le temps qu'on jase un peu de cette aventure-là, puis d'avoir participé au projet. Je suis super content du résultat, puis je suis sûr que ce qui est le fun, c'est que je suis sûr que ça va aider les gens juste en s'inspirant de ces histoires-là, puis en voyant que finalement, on n'est peut-être pas si mauvais que ça soi-même, puis qu'on est capable d'apprendre de nos erreurs, puis de devenir plus efficace, puis d'être capable d'influencer les gens, puis comme tu dis, d'avancer plus loin dans la vie avec tout ça.
Tout à fait.
Merci, bien, puis bravo.
Pris l'initiative, c'est d'avoir plus de leadership, d'avoir plus d'avancement dans la vie. Allez vous procurer le livre, commencez à travailler sur vos skills de conférencier. Ça se développe à travers les années, même si présentement, vous ne pouvez pas faire de présentiel. Vous pouvez le faire en vidéo, mais préparez-vous, puis lisez, puis informez-vous. Et la clé du succès, comme on l'a mentionné à maintes reprises, c'est la préparation. Alors, merci beaucoup, Stéphane, de ton temps. Alors, cliquez sur le lien en haut si vous êtes intéressé ou allez l'acheter en librairie. Merci beaucoup. Merci, Stéphane. Bye-bye, tout le monde.
Merci.
Excellent, mes amis, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre écoute. Si vous ne l'avez pas encore fait, merci de vous inscrire à ce podcast. Et si vous avez aimé le contenu, bien sûr, allez sur iTunes et laissez-moi un commentaire. Aussi, vous pouvez toujours me suivre sur Instagram @PatrickLeroux. Bye les amis, je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode.